Vous écoutez RTL, première radio de France. Est un vilain défaut.
Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que les Arabes étaient au cœur de ce système entre Méditerranée et Océan Indien. Ils étaient vraiment le pivot.
RTL.
Donc on a Sinbad le marin dans la première partie, on a par exemple Ibn Majid dans la seconde partie, un grand navigateur, et dans les dernières parties, beaucoup de voyageurs comme Marco Polo, Ibn Battuta ou encore Vasco de Gama.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les aventuriers des mers, ceux d'hier et d'aujourd'hui, ce sont des personnages qui nous passionnent à la curiosité sur RTL. Alors quand on a vu cette exposition que l'Institut du monde arabe leur consacre, on a voulu en savoir plus et notamment sur l'un d'entre eux, Marco Polo. Voilà, on vous offre une demi-heure sur l'histoire de Marco Polo avec plein de questions sur la réalité de ses voyages et de ses récits. Bonsoir Nala Alouda.
Bonsoir.
Bienvenue, on vient de vous entendre dans la mise en onde de notre réalisateur. Vous êtes la commissaire de cette exposition. Bonsoir Jean-Marie Bretagne.
Bonsoir.
Bienvenue à vous. Re-bienvenue. Hein. vous étiez déjà venu évidemment dans notre studio de la curiosité. Vous êtes journaliste au magazine Ça m'intéresse. Et vous publiez justement un article sur Marco Polo. C'est en partenariat avec RTL. Alors moi, je veux bien qu'on se remette d'abord un peu les idées en place, les uns et les autres. J'avoue que je ne savais plus trop quand et qui. Voilà. Où et quand est-il né ce Marco Polo?
Marco Polo, il est né en 1254. C'est un Vénitien, il est sans doute né à Venise. Et son père et son oncle, il est d'une famille de marchands. Son père et son oncle étaient des marchands qui sont partis en Asie quand il était tout petit. Et ensuite, ils sont revenus et l'ont emmené.
À quel âge? À quel âge part-il avec eux pour son premier voyage vers l'Asie?
Il part à 17 ans pour ce voyage qui va durer... 17 ans, je crois d'ailleurs, justement, peut-être plus, je ne me souviens plus. Donc il part à 17 ans.
C'est déjà un long voyage. L'objectif, c'est la Chine. Ils savent qu'ils veulent aller en Chine.
Bien sûr.
Leur objectif. Quels pays vont-ils traverser pour arriver en Chine?
L'itinéraire n'est pas... D'après le livre donc Le Devisement du Monde, le livre qu'a laissé Marco Polo...
Qu'on appelle aussi Le Livre des Merveilles, c'est
le
ça?
Le Livre des Merveilles, il y a le million, on verra après. il traverse... L'itinéraire n'est pas forcément très facile à reconstituer parce qu'il mélange un petit peu les différents voyages, celui de son oncle et de son père, et celui du retour. Il mélange un peu tout ça, mais... Apparemment, ça pourrait ressembler quand même à un voyage à travers la Turquie, puis vers l'Iran, l'Afghanistan, le Tadjikistan et la Chine. Allez-y.
Pardon, Alouda, excuse-moi de vous avoir interrompu. Que peut-on voir, justement, à propos de ce voyage, pour compléter les propos de Jean-Marie Bretagne, à propos du voyage de Marco Polo dans cette exposition de l'Institut du Monde Arabe?
En fait, on peut voir un dispositif tout à fait intéressant. On est parti d'un constat, celui d'avoir énormément d'objets pour raconter les sciences de la navigation, le développement des routes maritimes ou encore le commerce à longue distance. Mais finalement, beaucoup de pièces, mais qui ne nous permettaient pas d'incarner le propos. On a donc décidé de confier la narration du parcours à des témoins voyageurs qui rythment chacune des parties en livrant leur histoire personnelle.
Donc ce sont des récits qui racontent le voyage de Marco Polo.
C'est ça. Les aventuriers sont matérialisés par un dispositif que l'on appelle le Paper's Ghost et qui permet en fait de faire apparaître leur visage, visages.
C'est du chinois pour nous ça, le Paper Ghost, sans mauvais jeu.
C'est de l'anglais surtout. Donc ça marche comment ça?
C'est une espèce...
Un hologramme, un petit peu.
Alors, c'est un hologramme en moins cher, on va dire. Voilà, un hologramme que chacun peut refaire à la maison.
D'accord.
Qui permet, de faire apparaître un visage comme ça dans une boîte noire. Et en approchant, on peut entendre le récit des témoins voyageurs.
Et donc, c'est Marco Polo qui raconte.
Voilà, il y a plusieurs témoins voyageurs tout au long de l'exposition. Et Marco Polo est l'un d'entre eux.
Ouais. Et il décrit son voyage. Et ce voyage, notamment, est décrit aussi à travers ce livre qu'il a laissé, le Livre des Merveilles. Quel récit fait-il dans ce Livre des Merveilles, Marco Polo?
En fait, il fait le récit de toutes ses aventures en Asie et de ses voyages par voie terrestre, mais aussi par voie de mer. Le livre a été consigné dans ce qu'on appelle donc le Livre des Merveilles, mais qui a plusieurs noms, quelques années après son retour, autour de 1298. En fait, il aurait raconté ses péripéties à son compagnon de cellule, un écrivain qui s'appelle Rusticello da Pisa, pardonnez-moi mon accent, On sait en effet que Marco Polo a été emprisonné par la flotte génoise, grande rivale de Venise, peu après son retour en Italie.
Donc c'est ce compagnon qui va raconter l'histoire de Marco Polo.
Alors c'est Marco Polo, voilà, qui va dicter ou raconter son histoire à son compagnon de cellule, qui va le consigner dans un livre.
Ce livre des merveilles, Jean-Marie Bretagne, alors évidemment c'est un anachronisme de dire ça, j'allais dire c'était un best-seller, sauf qu'il n'y avait pas encore l'imprimerie, il a été recopié des centaines de fois dans plusieurs langues, c'est ça ?
Pour être le plus précis, disons, on va dire, c'est pas un énorme best-seller. Il y a des livres qui étaient recopiés plus que ça, qui étaient recopiés à 400 ou 500 exemplaires. Celui-là est quand même recopié, je crois, au moins une bonne centaine de fois. D'abord, je crois, il est en français, curieusement. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi. Il est en patois français de Champagne, je crois. Et puis en vénitien. Et puis, ce qui se passe, c'est que, il y a aussi un succès d'estime, c'est-à-dire que c'est un livre qui va passer les nobles qui s'intéressent à ses aventures, et notamment à un moment donné Marco Polo va remettre ce livre au frère du roi de France.
Donc ce Marco Polo devient un personnage grâce à ce récit. Dans son récit, il y a un autre personnage central dont il faut dresser le portrait rapidement pour ensuite savoir si oui ou non ce Marco Polo a pu inventer une partie de ce récit. Cet homme, c'est un empereur en quelque sorte, il s'appelle Kubilai Khan. Sur quoi règne-t-il ?
Kubilai Khan, c'est le petit-fils de Genghis Khan, qui est le fondateur de l'Empire moghol. Il règne entre 1260 et 1294. Et la première tâche de cet homme est la poursuite de la conquête entamée par son grand-père, et plus précisément la conquête de la Chine. Kubilai va réussir à prendre la Corée et le nord de la Chine, où il va s'imposer comme le fondateur d'une nouvelle dynastie, celle des Yuan. Le Japon et la Birmanie, d'ailleurs, sont également dans son collimateur. Mais ces tentatives de conquête y seront moins fructueuses.
Alors, donc on a un Marco Polo qui se retrouve un personnage finalement, on ne sait pas trop, conseiller. En tout cas, il devient un proche de l'empereur mongol. Et c'est moghol, et c'est ce qui va raconter dans ce livre des merveilles, un récit qui est détaillé et assez fascinant parce que ça donne une autre image de l'Asie. C'est ce qu'on va découvrir sur RTL. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et si Marco Polo était un imposteur ? C'est la question que pose le magazine Ça m'intéresse en partenariat avec RTL à l'occasion de l'exposition Aventurier des mers qui se tient à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 26 février. Pour en parler avec nous dans le studio de la curiosité, Nala Alouda, commissaire de l'exposition, et puis Jean-Marie Bretagne, qui est journaliste qu'on a l'habitude de recevoir à la Curiosité, au magazine Ça m'intéresse. Alors, on replante le décor, on est au début du XIVe siècle. Il y a un livre qui fascine les Occidentaux, il s'appelle Le Livre des Merveilles. Il raconte le voyage de Marco Polo en Chine, et il décrit notamment un Orient raffiné, Nala Alouda. Un Orient très raffiné.
Oui, et en fait, c'est le premier occidental à raconter cet Orient. On connaissait les richesses de l'Orient par les produits qui étaient échangés, par les marchandises qui arrivaient jusqu'en Europe, mais c'est la première fois que quelqu'un le voit et le raconte directement.
Qu'est-ce qu'il en voit ? Qu'est-ce qui le charme dans ces richesses de l'Orient ?
Tout, tout est différent. Le faste de la cour, tout particulièrement, apparemment, la cour, de ce Kubilai Khan était immense, était rempli. Enfin, le cérémonial était tout aussi intrigant, intéressant.
Des fêtes incroyables à la cour de cet empereur mongol.
C'est ça, d'immenses fêtes, comme on rêverait en avoir encore aujourd'hui.
Oui, vous en décrivez une partie, Jean-Marie Bretagne, dans votre article de ces fêtes. Et si vous deviez nous y emmener, là, ça ressemblait à quoi ?
En fait, ce qui m'a frappé surtout plus, c'est le côté un peu monsieur plus de Marco Polo, c'est-à-dire ces chiffres absolument déments.
Extravagants.
Faites-nous rêver.
20 000 valets, de 12 000 courtisans, c'est Versailles à côté, c'est la petite province. Enfin, y a aussi des milliers d'éléphants qui passent devant l'empereur chargés de vaisselle d'or et d'argent. Il y a des chasses incroyables avec des milliers de rabatteurs. C'est tout est par un nombre
Ouais, tout est multiplié par, oui, par
et mille. Alors, on touche au point central de la question qu'on pose depuis tout à l'heure. Marco Polo était-il un imposteur ? Alors, il y a un certain... On verra tout à l'heure, après les infos, qu'il y a deux écoles, hein, même chez les historiens, et que c'est une bagarre qui n'est pas finie de s'éteindre. Mais si on commence à se poser des questions, par exemple, il dit avoir aidé Kubilai Khan à s'emparer de la citadelle de Xianfu. Alors, pourquoi est-ce que c'est douteux, ça, tiens, par exemple ?
Alors, c'est rigoureusement impossible. C'est-à-dire qu'il n'était pas arrivé en fait dans cette ville. Il n'était pas arrivé en Chine quand la prise de cette citadelle a eu lieu. Donc Marco Polo aime beaucoup se donner le beau rôle. On verra après, mais c'est vrai qu'il est en plus aidé dans son écriture par un romancier. Donc ça tout prend. Il a un rôle, disons, qui se donne un rôle magnifique.
C'est un roman d'aventure en quelque sorte, son livre des merveilles.
Oui.
C'est pas un livre d'historien.
Non, pas seulement en tout cas.
Et c'est gênant ça, Nala Alouda, ça vous a posé question, ces possibles mensonges de Marco Polo, ou alors c'est vraiment le souffle de l'aventure qui vous a passionné pour cette exposition à l'Institut du Monde Arabe ?
Ça ne pose aucun problème. Dès le départ, en fait, la dimension aventure faisait partie de l'attrait de l'ouvrage. Nous, ce qui est important, c'est de comprendre en fait, qu'à cette époque, prendre la mer relevait de l'épreuve. Et c'est ça qui nous intéresse dans l'histoire de Marco Polo. C'est par exemple le récit de son voyage en mer, de voir qu'il a eu la cause dû se confronter à la piraterie, aux tempêtes, à la maladie qui ont décimé une partie de son équipe. Voilà, c'est plutôt ces choses-là qui nous intéressent. Et finalement, on sait que ce n'est pas un historien. Et puis, à cette époque, la plupart des récits, aussi sérieux soient-ils, utilisent le merveilleux, que ce soit dans la littérature des merveilles, qui est un genre scientifique très sérieux et qui pourtant décrit des créatures toutes plus fantastiques les unes que les autres et qui vivaient à le bout du monde. Voilà, dans tous les livres des voyageurs de cette époque-là, il y a cet aspect merveilleux.
Et Jean-Marie Bretagne, les animaux notamment, ces animaux fantastiques, il y a quoi dans le récit de Marco Polo ?
Alors il y a je me souviens plus de leur nom, peut-être que...
L'oiseau roux.
Voilà, c'est ça, l'oiseau donc qui... peut transporter, je crois, un éléphant dans son bec.
Ah, j'en ai vu un en Bretagne il n'y a pas longtemps.
Ça, c'est à Madagascar. Alors,
c'est ça.
C'est à Madagascar.
C'est un très très grand oiseau qu'on retrouve dans d'autres récits
aussi. C'est ça. Parce qu'en fait, souvent Marco Polo, il fait le point sur des légendes.
Mais nous, avec notre regard d'aujourd'hui, on se dit c'est un roman d'aventure ou alors c'est un imposteur. Mais à l'époque, est-ce que assez vite après pas la publication, mais le fait que ce récit ait été partagé de nombreuses fois, recopié, est-ce qu'il y a des doutes qui sont nés ?
C'est difficile de dire quand les doutes naissent. C'est-à-dire qu'il y a ce fameux nom du million. On ne sait pas très bien.
On surnomme son livre Il Million et Le Million. Pourquoi ?
Il y a une idée, mais qui n'est vraiment pas partagée par tous les historiens, pas du tout, qui serait que c'est le million d'exagération, c'est que tout est multiplié. Oui. Et puis il y a vraiment d'autres thèses, notamment qu'il avait un parent qui s'appelait Emilio, qu'il avait peut-être un ancêtre qui s'appelait Million. Et donc c'est difficile à dire. C'est difficile de dire quand naissent vraiment les doutes.
En tout cas, 7 siècles plus tard, le livre des merveilles continue de fasciner et de diviser les spécialistes de la Chine. L'une des querelles porte sur la Grande Muraille, dont Marco Polo ne dit pas un mot.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Marco Polo devient célèbre. Il fait un beau mariage et aura 3 filles. Mais ses exploits ne seront pas reconnus de son vivant. On veut même le forcer à admettre qu'il a menti.
J'ai fait claquer comme un drapeau le nom de Marco Polo.
La curiosité est un vilain défaut.
On lui demande d'admettre qu'il a inventé toutes ses histoires dans le seul but de devenir célèbre.
Jusqu'à 22h.
Ce que je confesse, c'est que je ne vous ai pas raconté la moitié de tout ce dont j'étais témoin.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Marco Polo, extrait d'un téléfilm, et puis Marco Polo chanté par un certain José Villamor, quand même, ça fait partie des pépites dénichées par notre réalisateur André Facetta. Si vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est de dos sur les images sur RTL.fr, mais il est mort de rire de nous avoir trouvé ce José Villamor pour illustrer Marco Polo. Était-il un imposteur ? C'était exactement ce qu'on entendait dans les extraits sélectionnés par André. C'est l'article en tout cas du magazine Ça m'intéresse, c'est en partenariat avec RTL et c'est publié à l'occasion de cette expo qui se tient à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 26 février sur les aventuriers des mers. Nala Alouda, vous êtes la commissaire de cette expo, je le rappelle. Alors, on n'y raconte pas seulement les exploits de Marco Polo, il faut quand même dire un mot de l'expo en général. Il y a qui d'autre comme aventurier des mers ?
Il y a beaucoup d'autres aventuriers des mers. On va parler par exemple d'Ibn Majid. On va parler d'Ibn Battuta, on va parler de Vasco de Gama, de Zheng He aussi, des Chinois. Voilà, on a essayé de pas seulement raconter l'histoire d'aventuriers qui soient issus du monde arabo-musulman, mais aussi d'autres, parce que c'est ensemble, en fait, qu'ils ont écrit cette histoire connectée entre la Méditerranée et l'océan Indien.
Qu'est-ce qu'ils ont en commun, en fait ? Ils ont développé le commerce ? Ils ont rapproché les hommes les uns des autres ?
Ça dépend. Ils ont chacun, en fait, un rôle différent. On va en avoir un qui va être un grand spécialiste de la navigation, qui va être un vrai marin, qui va écrire des traités comme Ibn Majid, dont on dira d'ailleurs qu'il a accompagné, aidé Vasco de Gama à trouver le chemin vers l'Inde. Bon, cette affirmation est bien remise en question, mais tout de même, on en a d'autres qui vont avoir vraiment un rôle marchand, comme c'est le cas avec Marco Polo, qui va ramener beaucoup de merveilles avec lui, qui va décrire les objets, qui va donner envie d'aller faire du commerce. Et puis, il y en a aussi qui voyagent pour d'autres raisons, comme Ibn Battuta, qui pensait aller faire le pèlerinage seulement et qui, en fait, se retrouve embarqué pour 25 ans d'aventure.
Jean-Marie Bretagne, on va revenir à Marco Polo et son livre des merveilles. Il est critiqué quand ce récit sort, il est critiqué de son vivant. Et ce livre, 7 siècles plus tard, il pose encore des questions. D'ailleurs, on se demande toujours s'il est vraiment allé en Chine. Que dit par exemple la spécialiste anglaise Frances Wood ?
Alors, Frances Wood, elle avait des doutes. C'est elle est conservatrice au British Museum. Et elle a pris un petit peu elle a joué un peu à Columbo. C'est-à-dire, elle a dit s'il est allé en Chine, c'est comme dans les scènes où Columbo dit vous n'avez pas pu être là parce que sinon vous auriez entendu ça.
Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas entendu, Marco Polo, pendant ses voyages ?
Qu'est-ce qui manque ?
Ce qui manque, c'est, d'après Frances Wood, la Grande Muraille, les pieds bandés des Chinoises, le thé, les baguettes, par exemple.
C'est pas mal, quand même. Ça fait un peu beaucoup.
Oui. Donc, on peut se dire, effectivement, comme elle, en fait, peut-être qu'il s'est fait raconter tout ça. C'est vraiment la thèse qu'elle a développée. Mmh. Peut-être qu'il s'est fait raconter tout ça en étant, finalement, parti pas très loin. Il a rencontré des voyageurs qui lui ont raconté. Et c'est pour ça qu'il a loupé ça. Bon, la thèse de Frances Wood, elle a été largement battue en brèche. Parce qu'il y a quand même des raisons très, comment dire, compréhensibles pour lesquelles il aurait pu ne pas voir tout ça ou ne pas y accorder une telle importance.
Quelles raisons ?
Alors, par exemple, la Grande Muraille, ce que dit un historien qui a travaillé là-dessus, dit la Grande Muraille à l'époque où Marco Polo est passé, elle était largement effondrée, elle était en mauvais état. Il a pas estimé que c'était l'une des choses les plus belles qu'il avait racontées, sans doute. Quant au thé, par exemple...
Il aimait pas ça.
Il était allergique.
Je parlerai que de café.
Je préfère les grands oiseaux qui portent des éléphants dans leur bouche.
On peut le comprendre. Non, mais c'est vrai que c'est un récit merveilleux où il a mis des choses inventées, mais il est maintenant peu probable que Frances Wood... Enfin, je veux dire, elle a poussé très loin le bouchon. C'est-à-dire...
En disant qu'il n'était pas allé en Chine.
Oui, non, ça
mais peut-être aussi tout simplement... Allez-y.
Il a sans doute, comme on le disait tout à l'heure, exagéré un peu son rôle. Mais évidemment, oui, il est allé en Chine à la cour de Kublai Khan.
Donc, à la question « Était-il un imposteur ?», vous répondez non. Oui. Mais peut-être qu'effectivement, il n'a pas pu voir toute la Chine. C'est un pays gigantesque. Donc, il était à la cour de Kublai Khan, qui est l'empereur mongol, qui régnait peut-être sur la Chine. Mais lui-même, Marco Polo, s'est pas baladé dans toute la Chine.
Voilà, et puis il n'était pas là pour observer les mœurs chinoises. Et il était... semble-t-il émissaire, c'est-à-dire qu'il a visité. Alors en plus, il y a des choses qui montrent qu'il y est allé. C'est-à-dire il y a des choses qu'il raconte qui montrent qu'il y est allé.
Par exemple, qu'est-ce qui atteste le voyage de Marco Polo en Chine ?
Il y a vraiment une histoire. C'est pas du tout la seule, mais il y a une histoire qui est claire. C'est la mort d'un ministre, un scandale et le meurtre d'un ministre de Kublai Khan. Et ça, il n'a pas pu, il ne pouvait pas le savoir sans y être allé parce que ça n'avait pas été raconté par ailleurs.
D'accord, il n'y a eu aucun récit
non,
de cette mort ou de cet assassinat d'un ministre de Kublai Khan, et donc ça ne peut être qu'un témoignage direct de Marco Polo. Il y a une exagération aussi dont on n'a pas parlé, qu'il faut peut-être raconter, c'est sur les revenus fiscaux de cet empire mongol.
Alors, d'une province,
qu'est-ce qu'il dit là-dessus ?
C'est une province, je ne me souviens plus laquelle, et donc il parle de, je crois, de 23 tonnes d'or pour les impôts sur le sel, si mon souvenir est bon. Bon, et là, je suppose que que c'est là, il y a l'effet million qui a dû jouer, c'est-à-dire que les gens se sont dit, oh ben non, mais ça, Marco Polo, c'est toujours la même histoire, il exagère. Or, ce qui est assez surprenant, c'est que en fait, des calculs ont été faits après, et ben, c'est un immense empire. Donc les 23 tonnes d'or, c'était tout à fait plausible, il n'exagérait pas.
Jean-Marie Bretagne, Marco Polo est mort en 1324, des décennies après son retour d'Asie. Était-il devenu une personnalité majeure de son temps?
Je ne crois pas que... Je pense que sa notoriété est allée croissant. Je ne sais pas si c'était déjà quand même une personnalité majeure.
Mais on lui reprochait éventuellement déjà son exagération, puisqu'on l'a entendu tout à l'heure. Quelle aurait été l'une de ses dernières phrases ou la dernière phrase sur son lit de mort?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il sentait quand même le vent venir, un petit peu du doute. Et il a dit... Pourtant, je n'ai raconté que la moitié de ce que j'ai vu.
Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez raconté tout ce que vous avez vu. C'était très agréable au micro de la curiosité. L'exposition Aventurier des mers de Sindbad à Marco Polo, c'est à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 26 février. Et puis le magazine Ça m'intéresse est disponible à lire et c'est en partenariat avec RTL. À bientôt.
Vous écoutez RTL.